Nous vous proposons un essai radiophonique en forme de feuilleton en 3 épisodes, réalisé à partir de l'ouvrage « En mer avec Henri Landier », ouvrage que le peintre Henri Landier a écrit avec l'auteur Dominique Lebrun. Les dictions seront assurées par André Bonhomme pour les parties rédigées à partir des écrits d'Henri Landier et par moi-même pour les présentations et intertitres réalisés d'après les notes et compléments de Dominique Lebrun. Des illustrations musicales viendront ponctuer le récit en faisant aussi un voyage en chanson. Cet ouvrage livresque, au contenu beaucoup plus conséquent que les extraits que nous vous en proposons à l'écoute, comprend aussi beaucoup de reproductions d'œuvres de Henri Landier. Il s'agit de peintures, dessins et documents divers qui font de cet ouvrage aussi un splendide voyage au cœur de l'univers pictural et mémoriel d'Henri Landier. Bonne écoute.
Sans vin, corps et rien, gens de cordes et de sacs, à bord de la Marie Gratis ont mis leurs sacs. Il est temps, les enfants, on a roulé sa bosse. Isse, c'est le grand phoque qui va payer la noce. Et Tarc, leur argent, les fasse tous cocus. La drisse du grand phoque leur rendra leurs écus. Issoé, c'est pas tant le gendarme que je regrette. Issoa, c'est pas ça. Naviguons, ma brunette. Va donc, Marie Gratis, brique, écumeur d'anglais, vira, piquet, dérape, un coquin de vent frais. L'arc en vrai matelot, les voiles de l'aurore, l'écho des cabarets de terre. Beugle encore, répond de ton cœur, perché dans les huniers, comme des colibris au haut des cocotiers. Jusqu'au revoir la belle, bientôt nous reviendrons. Ils ont bien passé là 4 nuits de liesse, moitié sous le comptoir et moitié sur l'hôtesse. Tâchez d'être fidèles, nous serons bons garçons et vente les huniers, c'est pas ça que je regrette. Brasse et port de partout, naviguons ma brunette. Adieu séjour de guigne et roulez court bon bord. Va la Marie Gratis, au nord-est, quart de nord. Va la Marie Gratis, au nord-est, quart de nord. Et la Marie Gratis, en flibus dans l'écume, bordant le lit du vent, se gîte dans la brume. Et le grand flot du large, en sursaut réveillé, la terre va bailler ses tyrans. Sur le roc, ils cinglent déjà loin et couvrant leur sillage, la houle qui roulait leur chanson sur la plage, murmure sourdement revenant sur ses pas. Tout est payé, la belle, ils ne reviendront pas.
Henri Landier, né le 14 juin 1935 à Paris, entre à l'âge de 17 ans en 1952 en dissidence familiale et en passion de peinture. Il se réfugie alors à Montmartre, lieu d'élection pour un peintre, fut-il tout jeune débutant. Et c'est là que débute le récit de cet épisode de sa vie qu'il nous propose.
Depuis que j'avais quitté ma famille, je dessinais, je croquais, je peignais, jour et nuit. La nuit surtout, car les ténèbres m'inspiraient. Les formes des ombres, les nuances de l'obscurité, les valeurs de contraste, les ruelles de Montmartre et du Quartier Latin, le désordre des halles, le mystère des quais de Seine et des ponts offraient une matière inépuisable à ma créativité débridée. Je travaillais jusqu'à en oublier de me nourrir et de me vêtir. Sur la butte Montmartre, on m'avait remarqué en train de dessiner ou de peindre à la lueur des réverbères. C'est ainsi que Jean Desparbès me proposa spontanément d'entreposer chez lui mon matériel de peinture.
Sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, elle n'avait plus de mère, et depuis 1900, à demeurer chez sa vieille aïeule, d'où qu'elle s'élevait comme ça toute seule, rue Saint-Vincent. À travailler déjà pour vivre, et les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, à rentrer par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. À voyer par les nuits de gelée, la nappe étoilée, et la lune en croissant, qui brillait blanche et fatidique, sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. L'été, par les chauds crépuscules, a rencontré Jules, qui était si caressant, qu'elle restait la soirée entière, avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la gerce. Aussi l'adolescent, voyant qu'elle marchait pas au pantre, d'un coup de surin il troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand on l'a couchée sous la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant. Les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de sa noce, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. Elle s'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent.
Ils arrivaient vers 17 heures, et parfois même un peu plus tôt, lorsque le mauvais temps d'hiver interrompait en plein après-midi les travaux qu'on ne pouvait exécuter qu'à la lumière du jour. La grille du jardinet grinçait, annonçant Cathy, l'encadreur, ou le doreur, Dédé l'amour, Bouéban, l'architecte décorateur, ou Petit Pierre, un des derniers sculpteurs de cathédrale. Pour entrer dans l'atelier de Maurice Fourny, l'ébéniste, il passait devant la cabane où j'avais élu domicile, et toujours l'un ou l'autre me conviait à les rejoindre. Quand 5 heures sonnaient au Sacré-Cœur, Jean Desparbès faisait son apparition. Ce peintre et poète de belle renommée avait son atelier à côté de celui de Fourny, très aristocrate dans son maintien. Il ne supportait pas les velours informes et le débraillé malpropre qui servait d'uniforme aux rapins de la place du Tertre. Il refusait même l'étiquette d'artiste, préférant se qualifier de peintre artisan. Et cet homme à la bonté discrète m'avait donné asile. Avec la nuit tombante, arrivaient d'autres personnages. Dans ces réunions où s'échangeaient les derniers potins de la butte, autour d'une bouteille apportée par l'un ou l'autre, on voyait Marcel Aimé, Antoine Blondin, Monique Morelli, Clochette, la chanteuse réaliste, Jeanne Paul, ainsi que d'autres peintres encore, leurs amis, leurs modèles. Moi, j'ouvrais grand les yeux et ne perdais pas une parole, car en cette année 1953, celle de mes 18 ans, je m'étais fixé pour but de vivre de ma peinture. Pour cela, j'avais quitté le toit familial.
Il a mis le café dans la tasse, il a mis le lait dans la tasse de café, il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café au lait et il a reposé la tasse sans me parler. Il a allumé une cigarette, il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé, il a mis son chapeau sur sa tête, il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait, et il est parti sous la pluie sans me parler, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête entre mes mains et j'ai pleuré.
Tel que je l'ai connu en vivant rue Saint-Vincent, la faim vous fait lever au beau milieu de la nuit pour courir les trottoirs en quête d'une pièce de monnaie qui s'y serait peut-être perdue. Si à l'époque on m'avait demandé « qu'est-ce qu'un miracle ?», j'aurais évoqué sans hésitation le jour où, dans la couche de poussière qui recouvrait le plancher de mon taudis, j'avais retrouvé une pièce de 5 francs tombée jadis d'une poche, car les 3 sous que je pouvais gagner en peignant des décors sur les vitrines des restaurants, en montant des échafaudages sur les chantiers ou en faisant le peintre en bâtiment, disparaissait en couleur ou châssis. C'est terrible, comme ce matériel coûte cher. Un simple tube de ce verre cinabre, dont je faisais si grand usage, représentait la nourriture d'une semaine, sans parler du violet de cobalt et des rouges de cadmium. Mais j'avais vite pris l'habitude de jeûner, me satisfaisant d'un semblant de repas tous les 2 ou 3 jours. Et quand mon ventre gargouillait trop, si des vertiges me saisissaient, je me faisais violence. « Tu ne vas tout de même pas te laisser commander par ton estomac !» Aujourd'hui encore, j'ai peine à l'admettre, entre novembre 52 et décembre 54, j'ai bel et bien produit 120 huiles, plus de 400 dessins et même 25 gravures. Mais comment ai-je bien pu payer les toiles et les couleurs nécessaires?
En vivant de rien, il faut croire.
Appelons ça un coup de folie si on veut. Mais il faut l'avoir subi pour concevoir quel genre de torture cela représente de marcher épuisé et gelé. Mais si tu t'arrêtes, c'est encore pire. Au milieu de boutiques qui foisonnent de nourriture, voir des gens mitouflés dans des vêtements épais entrer dans un restaurant sans même paraître y prendre plaisir, vrille ton estomac vide. Et en les regardant, tu te dis que tu n'appartiens plus au monde. Noël. Alors, la ville en fête m'a fait si mal que j'ai cherché à me terrer loin d'elle. J'ai pris la fuite vers la banlieue, par l'avenue de Saint-Ouen. Cette rue est interminable. Et voici que je me retrouve sur un terrain vague, devant un chantier. Je vois encore ces planches mal cloutées qui laissaient un accès dans la palissade. Je m'y suis faufilé sans me douter un instant du prodigieux cadeau de Noël qui m'attendait derrière. Car il y avait là une cabane de chantier ouverte. Et dans cette cabane, sur une vieille caisse retournée qui devait servir de table aux ouvriers, une boîte de sardines ouverte, avec dedans encore deux sardines, ainsi que toute l'huile. Et à côté, un litre de vin rouge débouché. Je n'ai pas souvenir de plus beau réveillon.
Noël, Noël, à l'indigent, il faudrait bien un peu d'argent pour se payer du pain des nippes. Petits enfants, petit Jésus, des argents que vous avez eus, il aurait bourré bien des pipes. Noël, Noël, les amoureux sont bien heureux, car c'est pour eux qu'est fait le manteau gris des brumes. Sonnez les cloches, cloches sonnez, le pauvre diable dans son nez entend carillonner les rhumes. Noël, Noël, les bons dévots s'en vont chanter comme des veaux près de l'âne, au pied de la crèche. Notre homme trouverait plus neuf de manger un morceau du bœuf et dit que ça sent la chair fraîche. Noël, Noël, le prêtre dit que Dieu parmi nous descendit pour consoler le pauvre air. Celui-ci voudrait bien un peu boire à la santé du bon Dieu, mais Dieu n'a rien mis dans son verre. Moustifaille et la joie, le chambre rose au bord tremblant, le boudin noir et le vin blanc, et les marrons pondus par l'oie. Noël, on ferme, allons, va-t'en, heureux encore si Satan, qui chez nous ces jours-là s'égare, te fait trouver dans le ruisseau quelque os où reste un bon morceau. Quelques moitiés de cigares. Et le misérable là-bas voit la crèche comme un cabas bondé de viande et de victuaille, et dans lequel surtout lui plaît un beau petit cochon de lait. C'est l'enfant Jésus sur la paille. Noël, Noël, les malheureux n'ont rien pour eux qu'un ventre creux qui tout bas grogne comme un fauve. Si bien que le bourgeois voyant leur œil dans l'ombre flamboyant, au lieu de leur donner, se sauve.
Ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
dans l'ombre flamboyant. Au lieu de leur donner ce sauve.
Cet hiver 1953, qui fut terrible pour Henri Landier, tira à sa fin. Sans que pour autant le jeune homme retrouve une alimentation normale et un environnement lui permettant de continuer à vivre ainsi bien longtemps. Au fil de l'année, il va en dépérissant et à l'approche de l'automne 1954, son entourage s'en inquiéta. Finalement, un ami de la bande, René Ferraud, dont le beau-frère était capitaine d'armement à la compagnie Schiaffino, suggéra et obtint de le faire embaucher comme pilotin. Le pilotin, un jeune sans compétences acquises, était embarqué sans salaire, recevait logis et nourriture. On lui proposa donc de passer l'hiver à bord d'un cargo, faisant la ligne entre la France et l'Algérie, ce qu'il accepta.
De la mer, je ne savais rien. Je l'avais vu une fois quand même, enfant, à l'occasion de vacances à Granville. Naviguer, voir le monde, m'arrivait comme une proposition miraculeuse et d'autant plus séduisante que le Montmartre des artistes n'était désormais plus pour moi que le quartier du froid et de la faim. J'avais la sensation que cette opportunité venait clore un cycle, qu'avec cet embarquement, une porte dérobée s'ouvrait, qu'une initiation nouvelle m'attendait. Quoique subite, cette motivation s'avéra suffisante pour abandonner tableaux et dessins au cabanon de la rue Saint-Vincent sans le moindre état d'âme. Quelques jours plus tard, avec l'aide de René Ferraud, j'écrivis une lettre de candidature à Schiaffino. Et pour ainsi dire, par retour de courrier, je trouvais dans la boîte à lettres du 36 rue Saint-Vincent une missive aux armes de la compagnie. Sur cette lettre était écrit « Vous embarquez le 7 décembre à 17h sur le Marcel Schiaffino dans le port de Rouen. » Lorsque pour arroser mon embarquement, on déboucha une bouteille, je savais que sur un bateau, quand on regarde depuis l'arrière vers l'avant, la droite s'appelle tribord et se caractérise par la couleur verte, la gauche étant bâbord, avec pour couleur le rouge. J'avais enregistré qu'à l'avant du navire se trouve la proue et à l'arrière la poupe, que le capitaine du cargo est le commandant, à qui on dit « commandant » et surtout pas « mon commandant », tandis que le second est le capitaine, à qui on dit « capitaine ». À ce cours du soir, qui n'avait laissé à personne le temps de se lasser, Ferraud ajouta deux recommandations dont j'ai pu vérifier par la suite toute la pertinence. N'écoute jamais les bruits qui courent. Si tu observes des clans à bord, reste en dehors d'eux. Et le brave homme conclut sa leçon par ces mots. Ah, j'y pense. Je t'ai apporté une casquette de marin. Alors il me tendit une superbe casquette de drap à visière rigide, toute neuve, raide, jamais portée. Je n'ose pas penser qu'il l'avait achetée spécialement pour moi. Peut-être ce passionné de mer et de navigation, enfermé à Paris, l'avait-il acquise jadis, et n'ayant jamais osé la coiffer, il me chargeait de lui faire prendre le large.
Allons, file mon côte, adieu mon négrier, va file aux mains d'un autre qui pourra te noyer. Adieu, rouleur de côte, roule mon négrier, sous les pieds plats de l'autre que tu pourras noyer. Nous n'irons plus sur la vague lascive, nous gîter en fringant. Plus nous n'irons à la molle dérive, nous rouler en rêvant. Va, nous n'irons plus rouler notre bosse, tu cascades et fourbus. les coups de mer arrosés, notre noce dit, en avons-nous bu, dit. Va, noceur de côte, noce mon négrier, que sur ton pont se vautre un noceur perruquier. Va pour fendeur de lames, pour fendre au négrier l'estomac des dames qui paieront leur loyer. Et sur le dos rapide de la houle, sur le roc au dos dur, à toque de toile, allez ta coque saoule, mais toujours d'un œil sûr. Il faisait beau quand nous mettions en panne, vent dedans, vent dessus. Comme on pêchait, va, je suis dans la panne où l'on ne pêche plus. Va, va te saouler mon contre, à crever négrier, et montre bien à l'autre qu'on savait louvoyer. La mer jolie et belle, et les brises en sont blancs, penche et trempe ton aile avec les goélands. Légère encore et pour toi la rafale qui frisote la mer. Va, pour moi seul rafaler, la rafale soulève un flot amer. Tu peux encore échouer ta carène sur l'humide varech, mais moi j'échoue aux côtes de la gêne, faute de fond à sec, à sec. Va sans moi, sans ton âme, essaye de l'avant, plus ne battra ma flamme qui chicanait le vent. Dans ton âme de contre, pense à ton matelot, quand d'un bord ou de l'autre remontera le flot.
Je ne savais pas encore que pendant des mois, si ce n'est des années, croisant un autre navire au large ou entrant dans un port, mon premier réflexe serait désormais de toujours braquer mes jumelles en quête de ce S blanc sur fond noir et rouge, signe distinctif des navires de la Société algérienne de navigation pour l'Afrique du Nord, appellation sociale de ce que tout le monde appelait plus simplement Charles Chaffino et compagnie. Je n'avais pas le vertige, mais je me sentais freiné par la sensation physique que cette échelle de coupé, j'ai appris le terme par la suite, allait me faire entrer dans un nouvel univers. Où étais-je donc en train de mettre les pieds? Alors je m'enfonçais la casquette sur le crâne, équilibrais mon sac sur l'épaule et me lançais dans l'ascension. Quelques secondes plus tard, j'atteignis le niveau du pont où se tenait un grand gaillard, maigre, âgé de 30, 35 ans peut-être. Je me présentai. « Bernard Josse, second capitaine, me répondit-il, ajoutant tout de suite, et le ton était cordial, « Vous êtes attendu, votre cabine est au fond de la coursive bâbord, dans le château arrière. Allez-y poser votre sac, et puis vous reviendrez me voir. » La coursive bâbord. Voilà qui dépassait la formation maritime inculquée par René Férot. Excusez-moi, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une coursive. Ma question ne sembla pas surprendre l'officier, qui me demanda ce que je savais des navires d'un ton si badin que je pus lui répondre en toute sincérité, rien du tout. Si cela le dérangea ou l'inquiéta, du moins, n'en laissa-t-il rien paraître. J'ai dû y rester assis 5 ou 10 minutes, hébété. Je venais de pénétrer dans un univers qui ne montrait rien d'agressif ni d'effrayant, mais qui m'apparaissait d'emblée tellement différent de tout ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent, que je ressentais une vraie inquiétude au moment de m'y immerger. Je vidai mon sac dans un des tiroirs sous la couchette et j'y enfouis la casquette de Ferro. J'avais bien remarqué sur les quais, comme sur le pont du cargo, que j'étais le seul à arborer pareil couvre-chef. Ainsi affublé, quel effet avais-je pu faire en arrivant à bord? Je crois qu'en me relevant pour retourner sur le pont auprès du second capitaine, j'eus conscience d'accomplir la rupture définitive avec la rue Saint-Vincent.
En allant de Vergnanville et de Cambrousse en lieu-dit, j'ai volé des cambrelines et des garçons de Paris, la roulotte poussée l'âne né près des Saintes-Marie. Un tambour à la fenêtre se balançait dans une cage où tremblaient de très beaux bruits. En allant de ville en ville et de village en lieu-dit, j'ai volé des cambrelines et des garçons de Paris. Les temps frêles écuyères, les maillots roses si déteints, la main de gloire éphémère, le tambour de tabarin, les tréteaux si crucifères apportaient en ce chemin. Jeux de tarot et de belote et les secrets de la main, complices de ce qu'on chuchote. Les temps frêles écuyères, les maillots roses si déteints, la main de gloire éphémère nous indiquait le chemin. Nous allions comme des fouines, la route effaçait nos pas. Chaos de nos verdines vers des nords blêmes et gras, près d'une place publique, un messier leva la main. Couchez-vous, fille profane, c'est l'asile des gitanes et des poèmes forains. C'était le bout de la route, la chanson mourut un peu. On mit la bonne aventure dans un lit de beau foin bleu.
Carré des officiers. Le terme peut donner des lieux une image prestigieuse. Il ne s'agissait en réalité que d'une pièce minuscule dont je vois encore les acajous vernis et la moleskine rouge, la table massive, une banquette d'un côté, des fauteuils en face, et la desserte sur laquelle Yves, le garçon, apportait les plats. Il y avait partout des pièces de cuivre, bien briquées, sur lesquelles le plafonnier, de cuivre lui aussi, allumait des lueurs douces. On était quatre autour de cette table. Le père Lebeau, officier mécanicien, Courland, le radio, et Le Gouen, lieutenant de pont, plus moi. Tous bretons, moi le parisien. Je venais faire exception. Et ce n'était pas tout à fait un détail dans la mesure où, chez Schiaffino, ceux qui n'étaient pas bretons étaient marseillais ou algériens. Déjà installé à table, il parlait famille, Otto, nouveau frigidaire, en 1954, c'était un summum de modernité. maisons en construction, toutes choses auxquelles je me trouvais complètement étranger. Rue Saint-Vincent, le grabat où je dormais n'avait même pas de drap. J'avais cru embarquer pour la grande aventure et j'étais en train de m'installer chez d'honnêtes bourgeois. Comme je l'ai constaté plus tard, c'est tout au contraire eux qui allaient vite se passionner pour le peu que je leur raconterais de la vie à Montmartre. J'entends encore Courland soupirer en abandonnant ostensiblement son steak dans le plat. Encore cette raclure de caillebotis. J'avais avalé le mien en 3 bouchées et je devais fixer avec une intensité visible celui de l'officier radio, puisque ce dernier me proposa sa part d'un ton encourageant. Je ne me fis pas prier, je bafferais. Et après, il y eut du fromage et puis du café. Les 3 hommes quittèrent la table et je sortis à mon tour. Je traînais sur le pont dans un rare état de bien-être. Le ventre plein. Tu te rends compte? Le ventre plein et je n'avais plus froid. En fait, au bout de quelques minutes dans le carré, j'avais ressenti une impression de déjà-vécu tout à fait inattendue. Ce n'était pourtant pas l'abondance de la nourriture ni le cadre. Le cadre? Mais c'est bien sûr cette petite pièce sombre, ces personnages serrés dans une atmosphère confinée, la déférence du garçon qui nous servait, c'était 8 clos, la dernière pièce que j'avais été voir quelques mois auparavant, quand je vivais encore dans ma famille et qu'une fois par semaine, ma mère m'emmenait au théâtre. Le plus étonnant reste que, de jour en jour, cette impression se confirma. Chaque repas apparaissant comme une représentation de la même pièce de théâtre où chacun des convives jouait son personnage. Ainsi, le père Lebeau, comme on appelait ce vieux de 45 ans, était le patriarche qui entretenait sa sérénité en faisant défiler les carafes de gros rouge d'Algérie dont la compagnie Tchafino abreuvait ses équipages. Le Gwen était un obsédé sexuel qui ne nous faisait grâce d'aucune de ses dernières galipettes, toute sa conversation étant émaillée de maximes équivoques aux rimes consternantes. Quant à Courland, le radio, son rôle consistait à critiquer la nourriture, et il le tenait à merveille. On aurait pu dire que chaque menu pouvait se lire comme un synopsis à partir duquel les convives improvisaient leurs textes autour de thèmes immuables, chacun des plats correspondant à un acte ou à une scène. C'était d'ailleurs l'apparition d'Yves, le garçon, qui en réglait la succession. Et cela a duré des mois. Il me fallut donc remplir des formulaires en plusieurs exemplaires, puis passer une visite médicale. Le médecin s'effraya de ma maigreur et, dans un premier temps, refusa de me laisser embarquer. « Mais il pèse 42 kilos, ce garçon. Il ne tiendra jamais le coup. » Heureusement, l'infirmière, une bonne sœur, lui fit remarquer qu'au contraire, peut-être, c'était en restant à terre que je risquais de périr d'inanition. J'eus l'impression que sur la vie et les êtres humains, cette religieuse en savait long. Elle me fit signe, quand je sortis du bureau avec mon fascicule d'inscrit maritime tout neuf, « Puisque vous embarquez sur un Tchafino, vous ferez sans doute escale à Marseille. Si vous voulez bien, vous pourriez monter pour moi à Notre-Dame de la Garde? Je promis. »
Je voudrais charpenter, gréer comme un navire, ex-voto du retour des marins en péril, les litanies pour Notre-Dame de la Garde. La maîtresse du port vers le lointain regarde le déclin des vaisseaux qui dressent leurs profils sur l'horizon en feu et pourpre des empires. Les jardins de la côte où brûlent les oranges, les citrons et le myrte au matin comme au soir élèvent leurs parfums à travers les cordages. J'entends des chants d'amour et comme des appels de détresse lancés par les grands voiliers noirs qui heurtent dans la nuit mille ennemis étranges. Je songe à tous ces cœurs qui sont tournés vers vous, à ces reconnaissants qui montent la colline lorsque Marseille dort dans la torpeur d'été. Je songe aux grandes mers, aux vaisseaux des matés, à mes amis retour des escales de Chine. Je songe à ces marins qui étaient à genoux.
Le commandant Zanka m'apparut comme un colosse. Il était chauve. Son visage hâlé et glabre s'ornait d'une cicatrice à la joue gauche. Son cou épais et court était aussi fort que sa tête qui semblait posée sur le col roulé de son jersey bleu marine. Ses yeux étaient noirs, intensément noirs, lui faisant un regard altier et conquérant comme dans certains autoportraits de Picasso. Son nez aquilin tombait droit sur une bouche aux lèvres minces, encadré de mâchoires larges et carrées qui serraient l'énorme pipe où il enfournait avec le pouce un tabac gris qui empestait de telle sorte qu'on sentait l'arrivée du commandant avant même d'avoir aperçu sa silhouette. Une force primitive émanait de cette statue du commandeur, celle d'un vieux loup de mer rompu à toutes les épreuves. Tout en lui, ses mains épaisses, ses bras très forts et sa large poitrine dégageaient une puissance aussi bien physique que morale. Il avait fière allure. Et plus tard, je l'associais à l'image de son navire en haute mer auquel il avait fini par s'identifier. « Bien, vous ferez la manœuvre d'appareillage à la passerelle, » dit-il seulement en m'observant. Aujourd'hui, je pense que cette phrase a commandé mon passage dans le monde des adultes.
Et le Marcel Schiaffino appareilla du Havre en direction d'Oran, avec à son bord ce jeune pilotin, partant à la découverte d'une quantité insoupçonnable de nouvelles sensations et impressions.
J'étais trop émerveillé par la beauté de l'instant. En ce début d'après-midi du 9 décembre 1954, sous un ciel bleu profond, le soleil bas se reflétait sur le fleuve. Il nimbait les quais d'une lumière chaude, créant, en cette mi-journée hivernale, une atmosphère de coucher de soleil en été. L'air était presque tiède. Quoique timide, les rayons du soleil se glissaient jusqu'à l'intérieur de la timonerie. Sous leur éclairage, l'acajou des cloisons composait une palette de rouge, de brun, d'ocre, de roux, de blond, aux nuances infinies. Ce soleil de décembre incendiait les laitons du compas et du shadburn, des lampes et des huisseries. Ils tendaient comme des haubans dans les volutes de fumée bleue que le commandant Zanka arrachait à sa pipe. Alors, j'ai senti dans tout mon corps le premier mouvement de la houle. C'est une sensation unique et inoubliable que cette force qui soudain s'exerce sur les talons et la plante des pieds, puis remonte aux reins et jusqu'à l'estomac avant de s'évanouir et de laisser place au contraire à une sorte de vide quand le navire atteint le sommet de la vague. Alors commence la descente, les jambes manifestant comme de l'impatience à retrouver un contact solide avec le sol, pendant que l'estomac paraît se décrocher du reste de l'organisme. Ce fut une prodigieuse découverte pour tous mes sens, car il y avait aussi le formidable piaillement de dizaines de mouettes fascinées par le halo de lumière que le cargo diffusait dans son sillage, et les odeurs. Sur le fleuve, je n'y avais pas prêté attention, mais une fois en mer s'épanouit une senteur d'iode à laquelle se mêlaient des odeurs de rouille, de peinture fraîche, d'huile chaude et d'autres que je n'arrivais pas encore à identifier. Quelle nuit ! Près de 50 ans après, je retrouve les sensations nouvelles que je découvris les unes après les autres. J'ai encore dans l'oreille le claquement sec des embruns contre les vitres de la timonerie, le choc sourd de la houle fendue par l'étrave, et dont le véritable bruit ne se laisse entendre qu'un tout petit peu plus tard, après qu'on a ressenti le heurt dans son propre corps. La sonorité métallique des pas sur le pont de tôle. Je me souviens que tout ce que je touchais dehors était froid, humide, salé, et combien le contraste était frappant entre le vent, les giclées d'embrun, le sifflement du vent dans les hauts bancs quand j'étais sur les ailerons de passerelle, et la chaude quiétude qui régnait dans la timonerie que Zanka enfumait de sa bouffarde bourrée de tabac gris. J'étais aussi très frappé par l'atmosphère magique qui émanait de la chambre des cartes. La petite pièce restait plongée dans la pénombre, une lampe montée sur bras projetant un rond de lumière douce sur la partie de la carte où les relèvements successifs des phares se croisaient pour indiquer notre position. On s'est retrouvé dans le noir complet du large, cap sur l'île d'Ouessant, avec cependant sur bâbord les éclats des Hanois, le grand phare de Guernesey. Alors d'un coup, j'ai senti la fatigue. Cela faisait 20 heures que j'étais debout, et j'en avais plein les jambes de compenser les coups de roulis. J'ai demandé l'autorisation de quitter la passerelle, et comme je prenais congé, il m'a semblé noter sur le visage pourtant peu expressif du commandant Zanka l'ombre d'un petit sourire rentré.
Soir de pauvreté, comme il en est encore, dans les rapports de mer et les hôtels meublés. Il arrive qu'on pense à des femmes capables de vous grandir en un instant, de vous lancer. Par-dessus le festin doré des balustrades, vers un monde de rocs et de vaisseaux hantés. Par-dessus le festin doré des balustrades, vers un monde de rocs et de vaisseaux hantés. Les filles de la pluie sont douces. cheval à travers un brouillard infiniment glacé. Leur corps qui se refuse et la noire dentelle qui pendent leurs cheveux comme un oiseau blessé. Nous ne dormirons pas dans les chambres offertes à la complicité nocturne des amants. Nous ne dormirons pas dans les chambres offertes à la complicité nocturne des amants. Nous avons en commun dans les cryptes d'Auvergne le hamac déchiré du même bâtiment. Et nous veillons sur nous comme on voit les pleureuses dans le temps d'un amour vêtu de cécité. À genoux dans la gloire obscure des veilleuses, réchauffés de leurs mains, le front prédestiné à genoux, dans la gloire obscure des veilleuses. Réchauffés de leurs mains, le front prédestiné.
Ainsi se termine le premier épisode de ce feuilleton radiophonique réalisé à partir de l'ouvrage « En mer avec Henri Landier » que le peintre Henri Landier a écrit avec l'auteur Dominique Lebrun. Les dictions ont été assurées par André Bonhomme, que je remercie chaleureusement, pour les parties rédigées à partir des écrits d'Henri Landier, et par moi-même pour les présentations et intertitres réalisés d'après les notes et compliments de Dominique Lebrun. Cet ouvrage, au contenu beaucoup plus conséquent que les extraits que nous vous en avons proposés à l'écoute, comprend aussi beaucoup de reproductions d'œuvres de Henri Landier. Il s'agit de peintures, dessins et documents divers qui font de ce livre aussi un splendide voyage au cœur de l'univers pictural et mémoriel d'Henri Landier. Il a obtenu en 2005 le Grand Prix littéraire de l'Académie de Marine. Il a été édité aux éditions Omnibus. Il est possible de se le procurer en librairie ou directement à l'atelier d'art Le Pic, 1 rue Tourlac, TOURLAQUE, 75018 Paris. On peut aussi très utilement et agréablement consulter le site internet de Henri Landier qui y présente entre autres un grand nombre de ses œuvres. Des illustrations musicales sont venues ponctuer le récit. Tout d'abord, deux titres de Monique Morelli, L'appareillage d'un brick corsaire de Tristan Corbière, mis en musique par Lino Leonardi, et puis la chanson Rue Saint-Vincent d'Aristide Bruand. Puis c'est Catherine Sauvage qui, sur un poème de Jacques Prévert et sur la musique de Joseph Cosma, interprétait Déjeuner du matin. Ensuite, le poème de Jean Richepin, Noël misérable, mis en musique et interprété par Jean-Michel Python. Puis à nouveau deux titres mis en musique par Lino Leonardi et interprétés par Monique Morelli, À mon côte le négrier de Tristan Corbière, puis de Pierre Macorlan, La bonne aventure. Ensuite, vous avez entendu un extrait des Litanies pour Notre-Dame de la Garde de Louis Broquier, mis en musique et interprété par Gérard Pierron. Et puis finalement, c'était le poème de René Guy Cadou, Femme d'Ouessant, mis en musique et interprété par Manu Lanuel. Bonsoir.
Thank you.